Une école pour la vie. L'émission de Radio Grand Ciel qui vous parle de l'actualité de l'enseignement catholique d'Eure-et-Loire, animée et réalisée par
Anne-Sophie Chaubaud,
Corinne Vivier,
Claire Tiercelin
et Jean Bourriou, votre serviteur. Bonjour à tous. Alors, au sommaire de notre émission aujourd'hui, Corinne.
Eh bien, il y a un mois, nos auditeurs ont pu entendre l'initiative faite par Monsieur Adam pour la journée des communautés. Monsieur Adam, directeur de l'école Saint-Jeanne d'Arc de Vauves. Eh bien, ils étaient allés visiter la mosquée de Châteaudun. Eh bien, en premier sujet, nous aurons Monsieur Yurt, conseiller municipal à Châteaudun et président de la communauté turque musulmane du Milugue Rouge, qui nous présentera la mosquée de Châteaudun.
Puis Anne-Sophie.
Et pour poursuivre notre émission, donc un deuxième sujet avec la rencontre de Madame Rocabois, nouvellement nommée chef d'établissement du lycée de Coinon à Dreux.
Et nous finirons avec notre rubrique avec Claire sur, c'était hier, le lycée de Françoise Daubigné.
Là, vous êtes dans une mosquée, mais c'est pas qu'une seule mosquée. Actuellement, on est aussi dans un, on peut appeler aussi, c'est comme une école, hein, parce qu'on a des classes, on a 98 élèves qui fréquentent le week-end et le mercredi après-midi. Donc, et on a donc 5 enseignantes, des bénévoles avec notre imam. Donc ça fait 6.
Mais est-ce que c'est plus une école religieuse qu'une école scolaire
Les deux, en fait.
Parce que le reste du temps, ces enfants-là, ils sont où?
Ils sont à l'école de l'éducation nationale.
D'accord.
C'est que le week-end, hein.
Que le
samedi et dimanche matin. Et après, la classe maternelle, c'est mercredi après-midi, comme il n'y a pas d'école. Donc c'est le week-end, c'est que le week-end.
Ça ne rentre pas dans le...
Et c'est 3 heures samedi, 3 heures dimanche.
Oui.
Donc en fin de compte, on a un programme qu'on essaie de suivre, d'adapter. C'est, on a 24 heures par enfant. Dans le mois. Ça fait au total 240 heures à l'année. Chaque enfant doit suivre 240 heures de cours au sein de la structure. Une association qui s'appelle le CIMG Châteaudun. CIMG, ça veut dire la communauté islamique du Milugue Rouge. Alors le Milugue Rouge, c'est deux mots que vous avez, que c'est étranger pour vous. C'est une fondation qui est née en Allemagne. Donc notre siège est en Allemagne. Parce que les premiers Turcs sont arrivés en Allemagne dans les années... les travailleurs, hein, quand ils sont arrivés, donc il y avait un besoin, tout ce qui est religieux, donc ils ont commencé à construire des petites mosquées. D'abord, ils ont commencé à prier dans des foyers, dans des chambres, et ainsi de suite. Donc c'est là-bas qu'est né le Milugue Rouge. Et c'est des fidèles, c'est des bénévoles, hein, qui ont commencé à monter cette structure. Et c'est qu'en 86 ou 87 que l'État turc a commencé à s'intéresser, on va dire... à tout ce qui est les affaires religieuses de la communauté turque. Que en 86. Mais avant 86, il y avait déjà donc des bénévoles qui avaient déjà commencé un travail. Et donc c'est là qu'est né le Milugue Rouge. Et c'est pour ça que le siège est en Allemagne. Et donc nous, on est rattachés au Milugue Rouge d'Allemagne. Bien sûr, après, il y a des départements, il y a des pays. C'est une hiérarchie, hein. C'est bien structuré. Donc nous, on dépend de la région du Milugue Rouge du sud-ouest. Donc le sud-ouest, c'est le centre. Le centre de France. En France, il y a 6 régions actuellement. En France, 6 régions. Et au total, le Milugue Rouge, il y a, je pense, 36 régions dans toute l'Europe. Et voilà. Donc on a un programme qui est préparé en Allemagne par des professionnels. Hein. Parce que l'éducation, c'est quand même... Il ne faut pas enseigner n'importe quoi, n'importe comment. Donc, un enfant de 3 ans ou un bébé, il faut lui donner du biberon. On ne va pas lui donner du pain parce qu'il va s'étouffer. Donc c'est vraiment... parce que vous êtes dans l'enseignement, mais... Donc nous, depuis quelques années, on a mis un système en place qui est adapté aux enfants qui sont nés en France et en Europe. Et là, depuis quelques années, on est en train de suivre une éducation... par rapport au programme qui a été préparé par des professionnels et qui a duré à peu près 5-6 ans pour la préparation. Donc là, on a des livres, on a un programme, et ça facilite notre, notre tâche, parce que sinon on n'a pas... Ce sont tous des bénévoles, ce n'est pas des professionnels. Hein. Mais comme on a les outils, et on sait après comment... C'est bien expliqué hein, comment on doit procéder. Après, c'est facile, quoi. Et c'est pour ça qu'on a cette éducation-là, on l'a suivi depuis quelques années. C'est nouveau encore, c'est pas ancien. Parce qu'avant, on avait un imam, on avait devant lui 50, 60, même voire 100 enfants. Et le pauvre, tout seul, devant ces enfants-là, bah, c'était un petit peu le catéchisme, donc il devait leur enseigner, mais c'était très difficile. Donc on a vu qu'il y avait un gros problème. Quand on voyait que nos enfants, malgré qu'ils allaient à la mosquée, ils suivaient, ils étaient vraiment bien structurés. Donc on a un programme, on travaille comme ça. Par exemple, les prêches de l'imam, par exemple, ils arrivent déjà toutes faites. C'est-à-dire que l'Allemagne prépare et il nous envoie ça. Et l'imam, bah, il sait de quoi il va parler, c'est bien contrôlé. C'est qu'on n'a pas des imams qui vont prêcher comme ça. La langue arabe, c'est, on ne leur apprend pas. Nous, on leur apprend simplement à lire l'arabe, à le lire. L'alphabet et à le lire, simplement. À le comprendre, non, parce qu'on n'a pas la capacité. À l'écrire, non plus. C'est juste à le lire et à apprendre le par cœur pour justement pour voir dans la pratique. Parfois, on a besoin de réciter certains versets. Mais le comprendre, l'arabe, non. Actuellement, on ne peut pas le faire. Ça sera un projet à venir parce que...
Quand vous dites qu'ils apprennent, que ce soit les enfants, ou ils apprennent par cœur, en fait... des versets en arabe, vous leur expliquez quand même un petit peu le,
Bien
le
sûr.
Contenu
ah, bien sûr, oui. Après, il y a la traduction, il y a...
D'accord.
Bien sûr, oui.
D'accord.
Oui, heureusement.
Oui.
C'est bon. Il faut quand même qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Mais sinon, on aimerait bien qu'ils comprennent directement ce qu'ils disent. Mais c'est...
D'accord.
Non, sinon, on essaie de traduire en turc ou en français.
Ils lisent et puis après, il y a la traduction.
La traduction. Et l'imam, il est là aussi pour justement... La traduction en elle-même n'est pas assez suffisante pour pouvoir expliquer le sens des versets.
Mm-hmm.
On peut lire, mais après, il faut expliquer.
Mm-hmm.
Et là, justement, aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes. C'est dans le monde, hein. Chacun interprète un petit peu comme il a envie d'interpréter, et puis voilà, on a des gros soucis.
Mmh.
Mais sinon, c'est traduit et expliqué par l'imam.
D'accord.
Vous, par exemple, vous êtes venu en France ou...
Je suis français d'origine turque, mais je suis arrivé à 4 ans ici.
D'accord.
Donc moi, je suis plus français, bien sûr.
Vous avez été à l'école en France ?
Oui, bien sûr, oui. Là, par exemple, quand je repars en Turquie, on va en vacances un mois, au bout d'un mois, je vais revenir.
La communauté turque est arrivée à Châteaudun, quelle année ?
Alors, dans les années 73, 74, mm-hmm. 76, on arrive en 77. Et quand on est arrivé, il y avait 10 familles à peine, 10 familles. Et là, il y en a pratiquement 200. Mm-hmm. Vous voyez, donc... Il y a peut-être une dizaine d'années, alors, beaucoup de personnes pensaient repartir au pays. Mais là, depuis 10 ans, les mentalités ont changé. Tout le monde investit ici, on a construit, donc...
Oui, chacun a des... Il y a des maisons qui sont là, le travail...
Le travail, donc voilà, les enfants, quand on part en Turquie, c'est pareil, ils veulent pas rester là-bas éternellement, ils veulent revenir. C'est parce que voilà, ils ont des habitudes, C'est surtout les habitudes, parce qu'on est arrivé, moi je suis arrivé à 4 ans, donc...
C'est le travail qui a fait que
il y avait une grande
communauté qui soit venue
Déjà,
en
nos parents sont arrivés, oui, parce que c'était le travail.
Mm-hmm.
À Châteaudun, la plupart des bâtiments, c'était dans la maçonnerie, donc nos parents, en majorité, 99%, c'était des maçons. Donc ils ont construit, on va dire, un peu Châteaudun. Donc nous, on est arrivés petits, mais nous, on a poursuivi. Mais bien sûr, c'est surtout le travail. Et là, comme on a pris des habitudes, moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont parties Châteaudun, une dizaine de femmes, mais sont revenues à Châteaudun.
Ouais.
On est quand même dans une petite ville, c'est pas très grande, mais on est bien.
Donc, M. Dur, vous l'avez peut-être pas dit, mais il est conseiller municipal à Châteaudun.
Oui, je suis sûr. Oui.
D'accord.
À Châteaudun. Thank you.
Madame Rocavois, bonjour.
Bonjour Corinne.
Alors, Madame Rocavois, vous avez succédé à Madame Voisin depuis septembre dernier au lycée de Coinon, à Dreux. Alors, Madame Rocavois, pouvez-vous nous dire où vous étiez l'année dernière et vous présenter à nos auditeurs ?
Donc, j'ai rejoint le lycée de Coinon en septembre après avoir passé 4 ans toujours en région centre, mais sur le groupe scolaire Saint-Grégoire-Blanche de Castille à Pithiviers, un ensemble scolaire avec un collège et un lycée professionnel. Je suis dans l'enseignement catholique depuis 1983 et j'ai toujours enseigné en lycée professionnel depuis le début de ma carrière.
Donc, est-ce que c'était un choix de vouloir enseigner en lycée professionnel ou un hasard de la vie ? Est-ce qu'on choisit d'ailleurs ?
Non, c'est un hasard. C'est un prêtre qui me connaissait bien, qui m'a indiqué l'établissement où j'ai commencé ma carrière. J'ai ouvert la porte par hasard et j'y suis restée par choix, par goût de ce que j'ai vécu dans l'équipe, dans la communauté et avec mes élèves tout au long des nombreuses années que j'ai depuis dans l'enseignement catholique.
Donc aujourd'hui, vous découvrez l'Eure-et-Loir, vous découvrez un nouvel établissement. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre lycée ?
Alors, le lycée de Coinon est un lycée d'un peu plus de 330 élèves qui regroupe deux secteurs, la santé et le social, avec des formations ASSP, SPVL, des formations du tertiaire avec des gestions administration, des élèves de vente et de commerce, un CAP dans le domaine de la vente, ECMS et des élèves de 3e préparatoire. Donc une richesse de public.
Vous êtes dans un quartier de Dreux qui s'appelle le quartier des Auriels, donc un quartier à forte proportion musulmane. Est-ce que dans votre établissement, vous avez des élèves musulmans et est-ce que c'est une grande majorité ?
Alors, il y a des élèves musulmans au lycée de Coinon. Je ne saurais pas vous dire s'ils sont majoritaires ou pas, parce que un jeune est un jeune. Et pour moi, dans l'établissement, il ne faut pas y avoir de différence par rapport à leur religion. Nous accueillons tout le monde, tous dans le respect de chacun. Musulmans, pas musulmans. On demande simplement à ce qu'ils soient totalement neutres quand ils sont dans l'établissement.
Et est-ce que vous avez aussi des enseignants qui sont de religion musulmane ?
Oui.
Oui. Oui, et ça ne pose pas de problème non plus ?
Ça ne pose pas de problème. Je pense que l'enseignement... J'ai en tête la phrase de Paul Malartre qui disait que l'enseignement catholique se voulait ouvert à tous ceux qui acceptaient son projet. Nous sommes très clairs sur qui nous sommes, ce qui nous anime, ce en quoi nous avons placé notre espoir, quelles sont les racines de notre projet. Et les gens qui viennent chez nous, ne sont, même si nous appelons de Coinon, savent qu'ils sont dans l'enseignement catholique.
Et est-ce que vous en servez pour aller plus loin dans une réflexion interreligieuse ou non ?
Alors, j'ai pas eu l'occasion de le faire sur de Coinon. J'ai eu l'occasion de le faire l'an dernier en disant que, effectivement, ce dialogue interreligieux, pour moi, doit passer par l'objectif de chaque religion qui est l'amour. Et qu'on soit musulman ou catholique, c'est l'amour des autres qui doit nous animer, même si on ne prie pas de la même façon.
Alors, les élèves accueillis donc dans votre établissement ont un profil quand même assez particulier. Et c'est vrai que quand on parle lycée professionnel, on imagine des jeunes qui ne sont pas là forcément toujours par choix ou qui sont là par dépit. Quelle est la spécificité de votre accompagnement ? Quelle est la spécificité de la relation avec ces élèves ? Est-ce que vous avez l'espérance de réconcilier aussi ces élèves avec une formation ?
Alors, les élèves qui arrivent en lycée professionnel sont généralement des cabossés du collège. Des élèves à qui on a dit très souvent « tu n'arriveras à rien ». Il faut leur faire prendre conscience que chacun d'entre nous a un talent. On n'a pas tous les mêmes talents et heureusement, si on n'avait pas de boulanger, on ne mangerait pas de pain. Et ce n'est pas parce qu'on sait lire une recette qu'on va savoir faire du pain. Donc il faut aller chercher en chacun d'eux ce qu'il est capable de donner. Et donc à partir de là, de leur faire reprendre confiance en eux, à chaque jour, de façon à ce qu'ils puissent bâtir un programme de vie qui ne passe pas forcément que par des notes à l'école. c'est le fait qu'ils soient capables de voir qu'ils sont capables de faire des choses qui leur permet de reprendre confiance en eux. On noue une relation qui est très particulière au lycée professionnel. On est vraiment sur une relation humaine très très forte. On n'est plus sur une transmission de savoir-être et de savoir-faire que de savoir pur. Et à partir de là, on crée des liens qui sont des liens très forts, même si on n'est pas des copains avec nos élèves. On est là en tant qu'adultes référents qui leur permet de grandir. Et je veux dire que ces liens, ils durent, mais vraiment très très longtemps dans le temps. Pour exemple, moi je croise des élèves que j'ai eu la première année où j'ai enseigné, et qui continuent de venir me voir pour savoir ce que je fais, ce que je suis devenue, et me faire part de leur fierté de ce qu'ils sont devenus. J'ai des parcours d'élèves qui sont fabuleux, parce que l'enseignement professionnel les a reconstruits, parce que l'enseignement professionnel leur a redonné confiance en eux. Et ça, c'est notre rôle essentiel.
Ça signifie aussi une équipe éducative soudée, qui dialogue, qui marche vers un même projet.
Alors, je pense que la particularité aussi de l'enseignement professionnel, c'est le travail en équipe. Je pense que depuis toujours, on a su travailler en équipe et on sait travailler en équipe. Et ce travail d'équipe, il est essentiel pour la réussite et puis pour tenir tous les jours, parce qu'ils ne sont pas toujours faciles, nos jeunes. Donc c'est parce qu'on est ensemble, c'est parce qu'on est unis qu'on arrive à s'en sortir. J'ai eu la chance et le bonheur de découvrir à De Coenon une très belle équipe qui vit des projets absolument fantastiques avec les élèves. On est vraiment sur une équipe pédagogique, là je vais dire hors norme, par rapport à ce que je connais des lycées pro. Je pense que j'ai la chance d'avoir une équipe dans ce lycée qui est vraiment au-dessus de la moyenne en termes de construction de projets et d'aider l'élève à se dépasser. Il y a notamment un projet art qui est absolument fabuleux, mais au quotidien, il y a une richesse de propositions faites aux élèves qui est vraiment très, très belle. Et c'est vraiment un beau travail des enseignants.
Alors, vous avez parlé du projet artistique. Est-ce que aussi, tout à l'heure, on a parlé de multiculture. Est-ce que vous jouez aussi sur la multiculture ?
Ah oui, le projet artistique, il est complètement mélangé. Et là, peu importe qui on est, les élèves arrivent avec leur sensibilité en fonction de leurs origines culturelles. Si d'occasion, vous regardez les expos qui ont été faites à De Coenon depuis que les projets artistiques existent, vous allez voir que le multiculturel est très très fort. Moi, j'ai dans mon bureau un tableau qui présente la tolérance où on retrouve 6 parties de visage avec 6 parties de visage totalement différentes en termes d'ethnie. Je pense qu'effectivement, dans ces projets culturels, mais dans tous les autres projets, on retrouve aussi cette multiculture.
On avait suivi les projets avec monsieur Cherami qui était venu, et on était allé aussi à la Maison du Vitrail interviewer vos élèves il y a déjà 2 ans maintenant. Madame Rocabois, eh bien, on vous souhaite bonne route dans ce lycée, bonne et longue route avec votre équipe et avec vos élèves. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et tout de suite, nous retrouvons Claire pour la chronique « C'était hier » qui aujourd'hui nous fait la rétrospective du lycée professionnel Françoise d'Aubigné à Maintenon.
Oui, le lycée professionnel Françoise d'Aubigné situé à Maintenon est une des plus jeunes écoles catholiques d'Eure-et-Loir. Arrêtons-nous d'abord sur le nom. Qui est Françoise d'Aubigné ? Tout simplement, Madame de Maintenon, qui fut la deuxième épouse de Louis XIV. Elle achète alors la terre et le titre de marquise de Maintenon. Autre époque, autre marquise. Une marquise a séjourné dans les locaux du lycée Françoise d'Aubigné En effet, jusqu'en 1977, année de sa mort, la marquise de Noailles habitait une chambre à l'étage du bâtiment situé rue du Maréchal Monoury. Celle-ci faisait partie de la famille de Noailles, dernière propriétaire du château de Maintenon. Les sœurs de Kermaria, qui logeaient également dans les chambres mitoyennes, lui apportaient ses repas. Aujourd'hui, les murs des chambres ont disparu pour permettre l'installation d'un agréable CDI. Revenons à l'établissement. À sa création, en 1958, il comptait 2 élèves. Et ce n'était pas encore un lycée. C'est la congrégation des filles de Jésus, les sœurs de Kermaria, qui est à l'origine de l'ouverture d'une école ménagère dont le but était de faire des jeunes filles de l'époque de parfaites ménagères. Elles apprenaient la cuisine, la couture, le repassage, bref, tout ce qui faisait à l'époque une future épouse parfaite. À ce moment-là, les cours avaient lieu dans la seule bâtisse, toujours utilisée aujourd'hui, qui se dressait dans la cour et dont la construction date de la fin du 19e. Ce bâtiment porte aujourd'hui encore le même nom, c'est la Maison Notre-Dame. Avant et pendant la guerre, la Maison Notre-Dame servait de dispensaire. Les effectifs progressant au fil des années et les jeunes filles venant souvent d'assez loin, l'étage a pendant quelques années servi de dortoir. Durant ces années, aucune des sœurs n'avait les diplômes requis pour diriger l'école. Et c'est le chef d'une petite entreprise, M. Bresson, qui en assurait la direction. Il deviendra, quelques années plus tard, le président de l'OGEC. Une dizaine d'années après sa création, les effectifs avaient bien progressé et les jeunes filles voulaient apprendre un métier. L'école a alors été transformée en collège d'enseignement technique. En 1970, l'établissement comptait 60 élèves, uniquement des filles, réparties en 3 classes, première, deuxième et troisième année de CAP employés de bureau. Pour récupérer de l'espace pour les cours, le dortoir est transformé en salle de classe. Il n'y a donc plus d'internat. Il faut maintenant envisager la nomination d'un directeur, et c'est une sœur de Kermaria, professeure de mathématiques, qui est nommée directrice. Après décision de l'éducation nationale, le CAP se préparera maintenant en 2 ans. Il est donc décidé, en profitant de la fermeture d'une classe, d'ouvrir un CAP comptabilité. Et en même temps, le collège devient mixte. Changement de directrice, ouverture de nouvelles sections. En effet, de nouveaux diplômes sont proposés dans d'autres lycées. Il faut suivre. En 1979, on ouvre une classe de BEP agent administratif et les effectifs ont plus que doublé. De réforme en réforme, l'établissement est devenu un lycée d'enseignement professionnel en proposant des BEP et des bacs pro secrétariat, comptabilité et des BEP vente. Bien entendu, pour accueillir tous ces nouveaux élèves, il fallait de nouvelles structures. On a donc installé dans le fond de la cour 6 salles préfabriquées, qui n'étaient que du provisoire et qui sont toujours là aujourd'hui. Au cours de ces années, on a quand même réussi à construire 2 belles salles de classe. Aujourd'hui, les effectifs ont bien augmenté, 136 élèves. Les formations sont toujours aussi diversifiées, bac pro gestion administrative, bac pro vente, bac pro commerce, CAP employé de vente. Et aujourd'hui enfin, la région s'intéresse au lycée Françoise d'Aubigné. Il serait question de transformer le provisoire en durable. Malgré ces agrandissements, cette communauté reste familiale, à taille humaine et accueille en chrétien, sans élitisme, le meilleur ou le plus faible. Ici, tout le monde est animé par la même volonté, faire des jeunes accueillis, des femmes et des hommes debout, responsables, formés au métier qu'ils ont choisi, épanouis sur le plan professionnel, bien sûr, mais aussi sur le plan humain et spirituel, peut-être capable de poursuivre des études supérieures.
C'est bientôt la fin de notre émission, mais avant, on retrouve un agenda. Alors, Anne-Sophie.
Oui, alors, quelques dates pour les futures portes ouvertes. Nous commençons par le collège Saint-Paul de Brou. Portes ouvertes le vendredi 10 mars de 17h à 20h et le samedi 11 mars de 9h à 13h.
le lycée Eva Greer Franz Stock de Nîmes, le samedi 11 mars de 9h à 16h, le vendredi 28 avril de 17h à 20h et le samedi 20 mai de 9h à 12h.
Enfin, au collège Sainte-Marie de Chartres, les portes ouvertes auront lieu le samedi 18 mars de 14h à 17h.
Au lycée agricole de Nermont, porte ouverte le 11 mars et le 20 mai 2017 sur le site de Châteaudun et le 29 avril 2017 sur le site de Nogent-le-Rotrou.
D'autres nouvelles, Anne-Sophie ?
Oui, tout à fait, Jean. Alors, dans un établissement, avec le début du carême, des opérations bolderies dans la plupart de nos établissements, carnaval. En ce qui concerne aussi les séjours linguistiques, notamment au collège Saint-Paul de Broux, un séjour en Espagne du 26 au 31 mars, en Allemagne, sur Berlin, pour les classes de 3e également, et un séjour en Italie pour les élèves de 4e du 3 au 7 avril.
Voilà, une école pour la vie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 4 semaines.